20. Luc ne subit aucun test ce jour-là, si ce n'est celui de son courage, et il échoua de nouveau. Deux fois il se rendit sur le site du Star Tribune, et deux fois il se dégonfla, même si la seconde fois il jeta un rapide coup d'œil au gros titre. Un type avait écrasé un groupe de gens avec son camion pour prouver qu'il avait la foi. C'était affreux, mais au moins ça se passait hors de l'Institut. Cela voulait dire que le monde extérieur était toujours là. Un détail avait changé. Son prénom apparaissait maintenant sur la page d'accueil de l'ordinateur, à la place de la mystérieuse Donna qui l'avait précédée. Tôt ou tard, il serait obligé de chercher des informations sur ses parents. Il le savait, il comprenait pleinement désormais le sens de ce vieux dicton « Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ». Le lendemain, on le conduisit de nouveau au niveau C, où un technicien prénommé Carlos lui préleva trois petits tubes de sang, lui fit une injection, sans provoquer de réaction, puis l'emmena dans des toilettes pour qu'il urine dans un bocal. Après cela, Carlos et une aide-soignante à l'air renfrogné, Winona, l'escortèrent au niveau D. Winona avait la réputation de faire partie des méchantes, et Luc n'essaya pas d'engager la conversation. Ils l'introduisirent dans une grande salle abritant un appareil d'IRM qui devait coûter une fortune.
« Ça ressemble à des installations gouvernementales », avait dit Georges.
« Dans ce cas, que penseraient monsieur et madame tout le monde de la manière dont on dépensait leur argent ?» Luc devinait que dans un pays où la population pestait contre Big Brother, même si c'était pour lui imposer des contraintes insignifiantes comme porter un casque de moto ou posséder un permis pour se promener avec une arme, la réponse serait « rien de bien ». Un autre technicien les attendait, mais avant que Carlos et lui puissent allonger Luc à l'intérieur du tube, le docteur Evans se précipita pour examiner son bras au niveau de la dernière injection et déclara qu'il était bon pour le service. Il demanda à Luc s'il avait eu d'autres crises ou des vertiges.
« Non. »«
Et les lumières? Elles sont revenues? Quand tu faisais de l'exercice, peut-être? Devant ton ordinateur? Ou pendant que tu poussais aux toilettes?
Non. »«
Ne me mens pas, Luc. »«
Je mens pas. »
Il se demandait si l'IRM allait détecter un changement dans son activité cérébrale et prouver qu'il mentait.
« Ok, très bien. »«
Non, pas très bien, » songea Luc. « Vous êtes déçu et ça me réjouit. » Evans griffonna quelque chose sur son bloc.
« Poursuivez, madame et messieurs, poursuivez. »
Et il repartit en coup de vent, tel le lapin blanc en retard à un rendez-vous important. Le technicien chargé de la machine à IRM, Dave, indiquait son badge, demanda à Luc s'il était claustrophobe.
« Tu sais certainement ce que ça veut dire. »«
Je ne le suis pas. Ma seule phobie, c'est d'être enfermé. »
Dave était un homme à lunettes d'un certain âge, à l'air sérieux, à moitié chauve. Il ressemblait à un comptable, mais Adolf Eichmann aussi.
« Parce que si tu es claustrophobe, je peux te donner un Valium, c'est autorisé. »« Pas la peine. »
« Tu devrais en prendre un quand même, » intervint Carlos. « Tu vas passer un long moment dans ce machin, à entrer et sortir. Ça rend l'expérience plus agréable. Peut-être même que tu t'endormiras malgré le boucan. Ça cogne et ça résonne. »
Luc le savait. S'il n'avait jamais passé d'IRM, il avait vu un tas de séries médicales.
« Non, merci. »
Néanmoins, après le déjeuner, apporté par Gladys, poussé par la curiosité et pour tromper l'ennui, il prit le Valium. Il avait déjà fait trois passages dans la machine, et à en croire Dave, il en restait trois autres. Il ne demanda même pas ce qu'il testait, ce qu'il cherchait ou espérait trouver. Il devinait la réponse. « C'est pas tes oignons. » Ou une variante. D'ailleurs, il n'était pas certain qu'il le sache eux-mêmes. Le Valium lui donna l'impression de flotter dans un rêve, et au cours du dernier passage à l'intérieur du tube, il fut pris d'une légère somnolence, malgré le vacarme que produisait la machine quand elle prenait les clichés. Lorsque Winona réapparut pour le ramener au niveau A, l'effet du Valium s'était dissipé et il se sentait juste shooté. Elle sortit de sa poche une poignée de jetons. Quand elle les lui tendit, l'un d'eux tomba et roula sur le sol.
« Ramasse-le, empoté !» Il obéit.
« T'as eu une dure journée, » dit-elle, avec un vrai sourire. « Si tu t'offrais quelque chose à boire, hein, pour décompresser, te relaxer, je te recommande la Harvey's Bristol Cream. »
Elle pourrait facilement avoir un enfant de l'âge de Luc, deux peut-être.
Leur aurait-elle fait la même recommandation ? Oh, vous avez eu une dure journée à l'école. Si vous preniez un petit jus de fruits alcoolisé pour vous détendre avant d'attaquer vos devoirs.
Il faillit le lui dire. Au pire, elle lui flanquerait une gifle.
Mais à quoi bon ?
Elle le regardait en fronçant les sourcils.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Rien.
Absolument rien, Winnie.
Ne joue pas au plus malin, Luc.
Je ferai un effort.
Il glissa les jetons dans sa poche. Il en avait compté 9. Il en donnerait 3 à Avery et 3 à chaque jumelle Wilcox. De quoi acheter des trucs à grignoter, mais pas le reste. Quant à lui, il n'avait qu'une seule envie à cet instant. S'enfiler une méga dose de protéines et de glucides. Peu importe ce qu'il y avait au menu ce soir, du moment que c'était copieux.